Bien, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, sauvez-moi la mise. Ne me dites pas que vous êtes tous anglophones. Non ? Merci. Alors, il est coutume de dire, je suis extrêmement heureux de rencontrer aujourd'hui nos invités, c'est-à-dire en l'occurrence, à mon extrême droite, Percival Everette, et tout de suite à ma droite, Richard Bauche. Donc, il est coutume de le dire, je vais le dire, je suis extrêmement heureux de les rencontrer, mais je suis plus qu'heureux, je suis intimidé, une fois n'est pas coutume, là par contre, de les rencontrer, parce que ce sont des gens dont j'ai le plaisir de suivre l'œuvre depuis assez longtemps. J'ai pu rencontrer Percival une fois, c'était pour la sortie de son avant-dernier roman, Blessé à Paris, et je n'ai jamais rencontré Richard Bauche. Des fois, j'ai une crainte, c'est que je me dis, il y a peut-être que deux lecteurs de Richard Bauche à Bordeaux, mais le fait est que non, puisque vous êtes là. Ces deux lecteurs étant, toute modestie gardée, moi-même, je commence par moi, quitte à être mal poli, et Alain Juppé. J'ai eu la surprise, en regardant le blog du maire de Bordeaux, constater qu'Alain Juppé était un lecteur assidu de l'œuvre de Richard Bauche. Alors, il est coutume de dire « nobody is perfect », mais là, en l'occurrence, grâce lui en soit rendue. Richard Bauche, j'ai parfois un peu l'impression que c'est un écrivain pour écrivain. J'aurais aimé que, comme moi, vous soyez présent le jour où Richard Ford m'a parlé de Richard Bauche. Il y avait dans sa voix des échos qui ne laissaient aucun doute quant à l'admiration profonde qu'il lui portait. Et quant à Percival Everette, eh bien c'est la même chose. Même si je crois, et j'espère ne pas être cavalier, que vous avez une légère différence générationnelle, mais l'âge, n'est-ce pas, en règle générale et en matière d'amour, ne fait rien à l'affaire. Je crois qu'en plus, ça je l'ai découvert aujourd'hui, vous vous connaissez assez bien tous les deux. Donc on va commencer par le commencement, parce que je ne sais jamais par quel bout m'y prendre pour additionner des choses qui ne sont pas nécessairement additionnables, mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait pertinent comme rencontre, parce que vous vous connaissez bien et vous vous lisez, n'est-ce pas ? Donc j'aimerais que chacun d'entre vous, avant de vous présenter, parce que c'est un exercice délicat, peut-être vous présentiez la façon dont vous voyez l'œuvre et la vie, j'en sais rien, mais l'œuvre et les livres de votre camarade respectif. Qui veut commencer ? Peut-être Percival, à propos de Richard Bauche.
Il va essayer.
Sorry about it.
Richard Bauche is a master of the short story. And he is sadly a master of the novel as well. I would say that I read him as a child.
Can you speak closer from your microphone?
I would say that I read him as a child, but that wouldn't quite be true. But I was 12, and from the very beginning with Richard's stories. The Fireman's Wife and his novels. I was hooked. I was seduced by his ability to create realistic fiction that transcends mere mimetic representation of a world. The stories do more than take on life. They become parable is to understate. They become songs about the world.
Ok, donc il vous disait que pour lui, Richard Bauche est un maître des histoires, des romans, et qu'il n'osait pas dire qu'il avait commencé à le lire en tant qu'enfant, mais presque, mais il avait 12 ans quand il a commencé à lire ses livres. Et dès le départ, il a été séduit en fait par sa capacité à créer une fiction réaliste et qui transcendait, et donc à chaque fois tout devenait vivant pour lui.
Same thing, Richard, about Percival.
Je ne connaissais pas Percival Everette. I think I just said I don't know. Percival Everette and I are, critics would call us opposites. Because Percival's world is often fractured and seems fragmented, and his art is more in the mold of, say, if we were painters, I would be Vermeer and he would be Picasso, not putting ourselves in that company, but saying the difference. I have never read anything of Percival's that I didn't realized very early was completely original nothing I'd ever seen like it. To me, that's the best sign of a masterpiece. There is nothing else like it anywhere. And every single time he sits down to write, something happens that's never happened before. And it's great delight to read him. I couldn't write that way. I couldn't write in that vein to save my soul, but I love reading in it, and he's a master at it. He's so pleasurable to read because you know you're in the hands of a genius.
Donc, les critiques disent en général que ce sont deux auteurs totalement opposés. On décrit Percival comme étant ayant une littérature plutôt fragmentaire, fractionnée. Et pour Richard Bauche, il n'y a rien de plus original. Pour lui, c'est un véritable maître en la matière. Il a toujours le mot juste. Il ne pourrait pas écrire comme lui. Il dit qu'il n'a pas la capacité d'écrire comme lui. Mais pour lui, toutes les lectures qu'il a pu faire de Perceval sont très agréables, très plaisantes. Et pour lui, c'est un véritable maître.
Alors effectivement, on va beaucoup dévider les chevaux de ce qui vous rassemble et de ce qui vous différencie. Parmi ce qui vous différencie, et sans doute ce qui est le plus important, le fait que aucun livre de Percival Everett ne ressemble au livre précédent de Percival Everett, et que j'ai tendance à penser, et croyez bien que ce n'est pas une critique dans ma bouche, que rien ne ressemble plus à un livre de Richard Bauche, un roman de Richard Bauche à dire vrai, que le roman précédent de Richard Bauche. Je dis que c'est pas une critique parce que rien ne ressemble plus qu'à un livre de Patrick Modiano, qui est mon auteur contemporain français préféré, ce dont vous vous moquez assez naturellement, que le roman précédent de Patrick Modiano. Et donc pour moi, ce n'a pas valeur ni positive ni négative. Mais je crois effectivement qu'on est là dans deux registres absolument différents. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça. Et puisque je citais Modiano à l'instant, je me souviens d'une vieille interview de Modiano où il disait que chaque fois qu'il commençait un livre, il avait l'ambition d'écrire quelque chose de très différent. Et je me souviens très bien qu'il citait Stevenson, il citait Conrad, vous voyez, toutes choses qui sont tout à fait différentes de son univers. Et puis qu'au bout de 50 pages, 100 pages, je ne sais pas, peut-être moins, il s'apercevait qu'il était juste en train d'écrire un livre de Patrick Modiano, ce qui, à mon sens, est déjà très bien. Je voudrais savoir si c'est quelque chose que vous éprouvez ou non l'un et l'autre.
Vous pouvez juste reformuler juste la question plus.
Même livre, pas même livre.
D'accord.
When I start a novel, I don't think about any of the works that preceded it. Certainly, and for me, style is purely a tool, so that the story that I finally come to rest on dictates how they will be presented. But the novels are usually generated by an interest in some particular thing in the world, whether it's karst formation of caves and often it's something Richard Ouellette, I mean, mathematical. I the reflexive property as in algebra is a main source for my interest in writing fiction.
Ok, il explique que quand il débute un ouvrage, généralement, il ne pense pas du tout aux livres qui ont précédé. Donc il travaille de manière totalement indépendante, et pour lui, le style est en fait un outil. Et pour lui, le roman, quelles que soient les choses qu'il puisse écrire, en fait, sont générées par les intérêts et par des choses très particulières qu'il rencontre dans le monde. Donc il a donné plusieurs exemples. Par exemple, il parlait de grottes, il parlait donc de l'algèbre, donc différents sujets qui peuvent l'intéresser.
For you?
I'm not sure I understand the question. I don't think a writer can escape his obsessions, but I don't think they are necessarily always in command of them, or I think I've just repeated exactly the same idea in different words. I don't think that a writer is always conscious of what the obsessions are, which is why you can't escape them. When I'm writing a novel, it is always that story, whatever it is. And I feel as if I have to learn or educate myself as to what that story is. And so the writing of the novel is, in every instance so far, and I've written 14 of them, I've published 11, I'm working on another one now, is that I have a very dim idea, a foggy, vague idea of what it's going to finally be. And the writing of it is the act of discovering what it is. And then after I've done that, then I have to go through and using what I know, becoming a little bit smarter about it each time through, make it the best book that I can make it. Sometimes it's as if I'm carving a bull and it starts to look like a tiger, so I make the best tiger I can make. Someone said that to me once in China, another writer, a Chinese writer, and I held my hand up in the air to slap palms with him and said, "We are brothers," and then we drank a lot of rice wine, had a good time. Percival is more like my brother as a writer. I have a twin brother who is also a novelist, and he is often working from something he has come upon in his thinking, in his intellect. They are intellectually, the two of them, very similar. It's probably one of the reasons that Percival is so dear to me, is that he reminds me a little of my twin, among other reasons. But I think for me, I'm not aware of any continuous strain of theme or thought. It's just each one is a story.
Alors, il a commencé par dire que les auteurs, en règle générale, ne pouvaient pas échapper à leur obsession. Hein, mais ce n'était pas souvent toujours les obsessions qui commandaient. Lorsqu'il écrivait, il était totalement concentré donc, sur son histoire, et c'était l'histoire qui faisait le livre. Il a parlé de 14 livres qu'il a réécrits, dont seulement 11 ont été publiés. Là, il travaille actuellement sur un ouvrage. Et il part toujours d'une idée relativement vague de ce qu'il va se produire. Donc rien n'est pré-écrit à l'avance. Pour lui, l'écriture est un acte de découverte. Et une fois qu'il a terminé son ouvrage, il revient sur ses travaux et il essaie donc d'améliorer et en utilisant donc ses connaissances. Donc, et il a donné l'exemple, c'était comme si il sculptait en fait une boule, un objet qui finalement allait devenir un tigre. Et pour lui, la meilleure idée, c'est d'arriver au meilleur tigre. Donc la même chose pour son livre. Il écrit quelque chose et ce qu'il veut faire, c'est qu'arriver à quelque chose de parfait. Il a également cité un de ses amis auteurs chinois. Hein, pour lui, il l'a appelé donc son twin, donc son jumeau. Et donc il compare ce personnage, cet individu chinois avec Percival, qui pour lui est également un frère. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'apprécie beaucoup, parce que ça lui rappelle donc cet ami chinois qu'il avait. Mais dans tous les cas, il n'est jamais vraiment conscient il n'utilise jamais des thèmes continus d'un livre à un autre. Chaque livre est totalement indépendant.
Alors, chaque livre est effectivement indépendant, mais il y a une espèce de ligne de basse, j'allais dire, pour ceux qui feraient de la musique, qui court dans chaque livre, me semble-t-il, et qui pour aller très vite relèverait de la problématique de la jeunesse et de comment s'en débarrasser, du moment précis de la perte de l'innocence de ses héros et perte de l'innocence de son pays, l'Amérique. Et en ce sens, on peut parfois... je parle de Richard Bosch, hein, bien entendu. On peut parfois rapprocher son travail plus ou moins de celui de Percival Everett. Je voudrais savoir s'il est d'accord avec ça. All your books are from the loss of innocence, the day where America was not innocent anymore. Something like that. Are you agree with that?
I'm not consciously thinking of that, but I know less about it than you do. A writer is actually the one who...
Well, that's my job.
the sharp reader of a book knows things the writer can't know. And it's one of the reasons that the relationship between the author and the reader is a very intimate one, because the reader is actually seeing things that the author is unaware of. Intellectually, there is a kind of knowledge the writer has that is like the knowledge that a lion has when the wind is right and knows what to do in order to get the next meal without ever saying anything. It's not ratiocinative, as the English word, which just means it's not thinking rationally, but it is a form of knowledge that is very much like muscle memory, like knowing what to do with your hands without telling them what to do when you play guitar or piano. That consciously, as a writer imagining your way through something, you are using the same kind of memory, so that it is not something that you can actually step back and talk about while you're doing it. You're not really aware of a lot of it. You know it instinctively. So I'm not conscious of any philosophy particularly. I don't think I have one consciously anyway. Be kind. Try to prosper while continuing to be decent, which is hard enough. It's simple, but it's still difficult.
Par rapport à la question qui avait été posée, donc lui, il n'est pas franchement conscient de ça. Il explique de différentes façons que la relation qui est plutôt intime entre un auteur et son lecteur, et que souvent le lecteur voit des choses que l'auteur ne voyait pas lui-même. Donc il se crée souvent une relation à l'intérieur de ça. Et il prenait l'exemple du lion, donc il cherchait à manger, donc d'une certaine forme de connaissance qui est quelque part innée, même si ce n'est pas le terme qu'il a employé, une sorte de mémoire. Que les individus peuvent avoir, mais en tout cas, il n'est pas du tout conscient d'une certaine philosophie. Lui, ce qu'il veut rester, c'est faire quelque chose de décent, qu'il trouve que c'est donc un exercice difficile. Mais c'est surtout la relation donc, qui s'établit entre l'auteur et son lecteur.
Vous, en revanche, Percival Everett, je l'ai dit, vos livres semblent extrêmement différents les uns des autres. On sent qu'il peut y avoir quelque chose comme un jeu sur la notion de genre. Le dernier en date, le dernier paru en France, qui s'appelle Le supplice de l'eau. Le dernier aux États-Unis, c'est I'm not Sidney Poitier, je crois. Mais celui-ci s'appelle Le supplice de l'eau, serait plutôt un espèce de thriller métaphysique. Le précédent, que j'aime particulièrement, qui s'appelle en français Blessé, est un western. Qui regroupe toutes les problématiques autour de l'Ouest, le vrai et de ses limites. Vous avez pu aussi écrire quelque chose qui se rapproche de la comédie, voire de la farce, avec un livre qui s'appelait Désert américain. Est-ce que il y a une volonté chez vous de comme un espèce de musicien extrêmement doué d'homme orchestre, d'utiliser toutes les palettes du chant romanesque pour quand même en revenir à quelque chose? Qui serait votre cher sujet, qui serait l'Amérique dans tous ses états.
Well, if that's possibly true, but of course, as Richard was saying, I don't see it. I simply set to work on the novels. I view art and novels as not, at least mine is not about a loss of innocence, but an attempt to return to innocence. To a place where making meaning inspires awe. Novels for me, fiction for me, is about the mystery of how it is that words can actually mean something on the page. And so the source material always is just being. In love with, for me, not with language specifically, but with the idea of making meaning.
Donc, alors il disait que c'était peut-être vrai par rapport donc à la question qui était posée, mais lui il ne le voit pas. Pour lui, l'art et les romans, en fait, c'est pas une perte de l'innocence, mais au contraire une tentative pour essayer de retourner vers l'innocence. La source qu'il utilise, enfin le matériau qu'il utilise, en fait, c'est ce qu'il cherche avant tout, c'est qu'il n'est pas forcément amoureux de la langue en tant que telle, mais de la manière dont on peut donner un sens à la langue.
Oui, ceci étant, parmi ce qui vous rassemble, il y a le fait que tous les deux, et c'est d'ailleurs très américain, parce qu'en France, on a quelques préventions qui sont, à mon avis, excessives d'ailleurs par rapport à ça, tous les deux, vous réfléchissez beaucoup à votre pratique romanesque et vous y réfléchissez pas seul, vous y réfléchissez avec des élèves. Vous avez tous les deux certainement Percival beaucoup plus encore, des activités extrêmement importantes au sein des universités américaines. Richard à l'université de Memphis, et quant à Percival, il dirige le département de littérature anglaise, d'expression anglaise, à l'université de Californie du Sud.
Parce qu'il a pas l'air. Apparemment, ce que vous dites, c'est qu'il réfléchit en commun avec des étudiants.
Non.
Par rapport. Non.
Mon expression est malheureuse. En France, on a tendance à penser qu'un écrivain est seul dans sa tour d'ivoire et que ça ne s'apprend, qu'écrire un roman ne s'apprend pas, que ce que vous appelez vous, les Américains, le creative writing, ça ne peut pas exister. Or, l'un comme l'autre. Vous intervenez dans un milieu universitaire, l'un comme l'autre, vous réfléchissez au roman et à ses aléas.
Though I teach writing, I have to say, and though I'm inspired often by my students never see my work.
Yeah.
So there's no.
What a pity.
In process.
Yeah.
So there's no any kind of there's not any kind of. Critical input from the students upon my work.
Yeah.
And I think Richard might agree that though I think we both we love teaching writing, we produce fiction in spite of the fact that we teach it. It's reading other people's work often gets in the way of this is a solitary practice. Yeah. We ideally, through my days, I would see no one, and just as reading is a solitary practice, writing is especially solitary. So the workshops that support us are in a way antithetical to our mission and our art.
I think of them as just different. I play guitar and sing. It's not the same thing as writing. And I teach writing, but I don't really teach writing. You can't teach writing any more than you can teach music or painting. What you do is provide a place where it can happen and encouragement for it to happen. What I teach, and you can teach this, is the life. I teach by example, and I teach by exercises, and I teach by continually urging, like a coach, that I teach patience and toughness and stubbornness and understanding that you're supposed to be confused and that it doesn't come like lightning, it comes like work, and that it is just work. And learning how to do the work every day. Learning how not to expect so much from one day's work, and to understand that the only thing you demand of yourself is this day's work. You ask yourself at the end of a day, did I work? If the answer is yes, no other questions allowed. And that you can get a lot of really good writing done if you understand that it takes place a little at a time, over time, in a lot of confusion and doubt. You're dealing with a language. You're dealing with something that is so easy to get wrong. So you have to do it 75 times to get it right. The key is to make it seem as if you didn't work, to make it effortless seeming. You work on it, slave on it, labor over it to get the worked on feeling out of it. So that it looks like you just breathed it, you just casually mentioned it.
So, c'était un peu. Oui, ça va être un peu long.
My wife is signaling me. I don't know what.
Yeah, excuse me. What is it?
What is it?
No,
what is it?
Non, alors Percival commençait par dire que ses étudiants, lorsqu'il écrivait un ouvrage, donc ses étudiants n'avaient pas accès à son travail, en tout cas dans le processus. Donc il n'avait pas de critique, hein, de participation critique par rapport à son travail. En tous les cas, il précisait également que les deux auteurs adoraient écrire et qu'il aimait aussi lire les ouvrages d'autres personnes. Il expliquait que l'écriture, pour lui, est quelque chose d'un travail solitaire, comme la lecture peut être un travail solitaire. Et donc, il a son soutien donc, de ce monde extérieur, mais il est très solitaire dans son travail. En revanche, Richard disait quelque chose que lui, c'était totalement différent. Il comparait effectivement le fait de jouer de la guitare et qu'il enseignait effectivement comment écrire. Mais en fait, ce n'était pas tout à fait ça. Il expliquait plutôt qu'il fournissait un lieu pour que cela se produise. Donc, il enseignait par des exemples, il enseignait par des exercices, en étant une sorte de coach. Il enseigne la passion, stubbornness, c'est le fait d'être têtu, hein, et il enseignait aussi la possibilité aux gens qu'ils avaient le droit d'être confus, hein, de ne pas savoir exactement où ils allaient. Et alors ensuite, il s'agissait donc à la fin de la journée de se positionner et de se demander, hein, est-ce que j'ai travaillé ? Et si c'était le cas, que c'était oui. Mais que tout se faisait petit à petit et souvent avec beaucoup de confusion et que ça pouvait prendre, j'ai pas pris les notes de tout, plus de 75 fois pour le faire juste. Mais ce qui est important à la fin, c'est en fait de donner l'impression au lecteur qu'il n'y avait aucun effort, même si derrière il y avait énormément d'efforts. C'est en fait pouvoir donner cette possibilité au lecteur de lire et se dire, bon, finalement, c'est fluide, c'est simple, c'est compréhensible, malgré, sans avoir à penser à tous les efforts qui ont pu être faits par derrière, par l'auteur. Ils vont m'épuiser. You're gonna kill me.
I think she was telling me to shut up.
Yes, it's probably, I think she was. But
Et comment on sait que c'est juste? Comment on sait qu'on a, voilà, qu'on a été juste?
How do you know it was the right
in some ways,
way to do it?
In some ways, you never know. And often I might be wrong. Usually, it's when I discover that even though I keep working on it, I might be making it different, but I don't see that I'm making it better.
Is it a musical question or?
Sometimes it's a question of rhythm, sometimes it's a question of tone. But with a novel, it's hard to measure those things along the way.
I always said it still looks pretty good. Oh, I'm sorry.
Non, c'est ok, we're just going. Non, ce qu'il disait, c'est que généralement, bon, il ne sait pas, hein, si c'est juste ou pas. Parfois, il peut avoir tort. Et donc, après, a été effectivement soulevée la question, est-ce que c'est une musique? Et il parlait effectivement, Percival, de questions de rythme et de ton, mais que les mesures pouvaient être différentes. Yes, go ahead.
I always say to myself and to students, if it still looks good and feels good in 6 weeks, it's probably good.
I didn't get it. Can you just rephrase it?
If it still looks and feels good reading it in 6 weeks after you've done
after
it.
6 weeks
time. Après, donc après six semaines après l'avoir réalisé, donc si ça sentait bien,
it's probably good.
C'est probablement bien. Donc en fait, l'idée, c'était de laisser du temps entre la fin du travail et la lecture. Donc si effectivement 6 semaines plus tard, ça sonnait toujours bien, c'est que c'était un travail réussi.
Alors, pour préparer quand même cet entretien, autant que faire se peut, et pouvoir arguer de ma conscience professionnelle sans faille, j'ai été faire une petite recherche sur Internet, Providence des journalistes paresseux, et j'ai été notamment sur le site Internet, enfin la page de Richard Bosch. Très intéressant. Au demeurant, elle est très bien faite, c'est pas le cas de toutes. Et alors, il y a évidemment, pour tous les apprentis écrivains, c'est une mine, parce qu'il y a 10 commandements sur 10 commandements aux jeunes, à l'écrivain en herbe, 10 commandements de Richard Bosch, envers qui il souhaiterait écrire. J'imagine que c'est un résumé de ce qu'il doit pouvoir dire à ses étudiants. Vous vous souvenez certainement de ces 10 commandements, Richard Bosch. De toute façon, je les ai notés, donc on va. Et j'aimerais savoir ce qu'en pense Percival Everett. Alors, la première premier de ces commandements, si vous permettez, nous sommes en terre catholique, donc on va chacun les prendre. Premier de ces commandements, lis, read.
Read everything you can get your hands on. You don't want me to say the whole Ten Commandments?
See.
Oh, I don't remember them all off.
No, no, but I remember because I write it. So if you want to write, you have to read first?
Well, I assume that someone who wants to write because they love literature, so yes. Yeah.
Deuxième commandement, plus intéressant, peut-être plus inattendu, imite. You've got to imitate.
Second one was to imitate.
Why?
When you learn how to sing, you sing the songs you love by the people whose versions you love and the voice of those singers. A painter learns to paint by setting an easel up and copying the masters. You can see them doing it in the art galleries. And for writing, it's the same thing. You read the good writers and you try to sound like them. That's how to find your style.
What do you think about it?
Non, non, à propos effectivement de ce deuxième des 10 commandements, en fait, il prenait l'exemple lorsque vous voulez apprendre à chanter, hein, vous chantez généralement les chansons de gens que vous aimez et vous essayez donc de vouloir les imiter. La même chose pour les peintres, hein, puisque les peintres ont tendance toujours à imiter le maître, et donc il fait le parallèle avec l'écriture, c'est la même chose. C'est la façon en fait pour pouvoir avoir son propre style. Donc ensuite la question était posée.
Percival. You agree with that?
I suppose that's there unconsciously, certainly, but yes. I never think about that, and I've never encouraged it. I don't know if anyone can escape it, but I don't think of it as.
The first time we met each other, you said to me, "Well, my book is between Lawrence Stern and Mark Twain." Lawrence Stern and Mark Twain, and I've got to imitate something of Lawrence Stern, and I've got to imitate Mark Twain.
Influence, yes, but yeah. I never seek to imitate. Yeah.
Yeah. No, it's the learning. It's the first process. Not now. I never imitate now. I'm talking about at the beginning. I was writing letters in the style of Norman Mailer, trying to impress a young woman. I was learning how to write. I didn't know it. I wasn't doing it consciously.
Donc d'un côté, effectivement, pour Percival, pour lui, il est difficile quand même d'échapper à l'imitation. Mais pour lui, parce que donc les exemples qui ont été pris pour lui, c'est pas son cas. Pour Richard, il disait qu'effectivement, dans le premier processus, quand on commence à apprendre à écrire, oui, nécessairement, on a tendance à imiter des auteurs que l'on apprécie. Et donc ici, c'est un exemple personnel qu'au départ, il y a longtemps, il écrivait des lettres donc à une jeune femme en prenant le style de Norman Mailer. Donc voilà, donc c'était de l'imitation. Mais aujourd'hui, il ne le fait plus, il n'imite plus.
And what's the result?
No.
Is Norman Mailer an
arm? Nothing, didn't work.
He didn't.
Unsuccessful.
Troisième commandement, on ne va peut-être pas tous les faire parce que ça va être un peu long, mais je vous les cite. C'est « Vis comme un bourgeois ». Vous savez, c'était la fameuse phrase de Gustave Flaubert. « You just have to live a normal life ».« Vis comme un bourgeois », ça te permettra d'écrire comme un monstre. Quatrième commandement intéressant aussi, tu dois être capable de travailler n'importe où. « You must work anywhere you are ».«
You must work anywhere ». »«
Teach yourself to work ».
Yeah. Oh.
As many places as you
any
can.
Places.
Can you work anywhere?
Yes.
Yeah. So, you're going to be a good...
I'm working right now.
Cinquième commandement, qui me paraît très important, sois patient. Be patient.
Be patient.
Why?
Because if you expect too much too soon, you quit. And it goes to silence. You have to learn how to accept that you won't get it right the first few times. That's patience.
Agree with that?
I think it's a wonderful way to be. I don't know if I'm all that patient.
Sixième commandement.
Vous voulez pas
pardon, ah oui, pardon, excusez-moi.
Non, excusez-moi. Donc le cinquième commandement était effectivement d'être patient. Et donc ce que Richard disait, c'est qu'il ne faut pas attendre trop vite, hein, parce que sinon on abandonne, donc ça prenait du temps. Et donc Percival lui disait, bon, il n'était peut-être pas si patient que ça.
Sixième, sois volontaire. Be willing.
That, be determined.
That means, again, learning to live with failure, knowing that anything that's worth doing is marbled with failure, and that so you must be willing to make the mistakes that you'll make trying to find the right way. You're there and you're open to it.
Donc ce sixième commandement, donc, c'était d'apprendre à vivre avec les échecs, hein, et d'être à même de faire des erreurs pour essayer de trouver donc la bonne voie.
Septième commandement, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête deux minutes parce que je pense que ça va vous parler à tous les deux. Je l'ai traduit de manière impropre, je me souviens plus exactement du terme anglais, mais évite l'histoire, méfie-toi de la politique, si vous voulez. N'oublie jamais que tu écris des destins individuels et que tu ne dois pas noyer ça à l'excès dans une volonté démonstrative liée à l'histoire. Je ne sais pas si je suis clair.
The next was
yes. Astute politics. What do you want to say with that?
Chekhov said, "Politics is death." And he was talking about the short story. I believe that if, as a writer, you are writing a story, it can certainly be caused by or brought about by something you feel deeply having to do with politics. But as soon as you intentionally make it a political statement, you have killed it as fiction. It will only be that statement. And instead of being a storyteller, you will be a pamphleteer. Usually that's the way it works. If history is in a good story, it's backdrop. Moscow is burning. And Natasha turns and says, "Oh yes, Moscow."
J'ai eu un peu de mal à comprendre, parce que, en fait, il parlait effectivement de Tchekhov et qui citait que la politique est la mort, et donc il parlait donc d'écrire des histoires qui étaient causées ou qui étaient amenées par la politique, en fait, était pas la bonne chose à faire puisque ça devenait en fait une affirmation politique. C'est ce que j'ai saisi.
Il y a une ambiguïté dans l'œuvre de Richard Bosch, c'est que la politique est partout. Elle est partout, mais elle ne noie pas le propos. J'ai amené ici un livre qui, pour moi, est peut-être le plus beau de tous ces livres, mais s'il faut vraiment se livrer à un hit-parade qui serait un peu imbécile, qui s'appelle « Salut à l'Amérique dans ses foyers et sur les mers », qui est un sublime roman d'apprentissage qui se passe au moment de l'assassinat de Kennedy. Donc la politique est par définition extrêmement présente. Mais en même temps, c'est un extraordinaire roman d'apprentissage, c'est-à-dire que la politique ne vient pas ne vient pas noyer la force et la foi du romancier dans ses personnages. Est-ce que je vous ai bien compris?
C'est ça. I hope so.
Well, great.
I hope so. I mean, I never am thinking about anything but the personal. A fiction writer, the soul of it is personal. The thing that got Zhivago in trouble in Russia was he was writing about the personal life. And his novel, Dr. Zhivago, the thing that got Pasternak in trouble in Russia writing Dr. Zhivago is he was writing about the personal life. And that's what gets Zhivago in trouble. Strelnikov says to him, "The personal life is dead in Russia. These poems are bourgeois. They don't belong here. You don't belong here." But that's what the soul of it is. Personal. It's personal.
Il explique que donc un écrivain donc de fiction, l'âme de l'écrivain est personnelle. Et il prenait l'exemple de Dr. Zhivago, qui s'est retrouvé donc en situation difficile parce qu'il écrivait sur des histoires personnelles. Donc ça insiste bien que c'est l'âme est très personnelle.
What do you think about this presence of politics in novels and?
Well, it's back to what Richard said before, as we can't hide from ourselves. No matter what we do, the things that are important to us will find way into our work. And The mere fact that I choose to write fiction for a living is evidence enough that I'm mentally deficient. So no one needs to listen to me, you know, espouse my beliefs, my messages about the world. My art is rendering a world.
Donc il expliquait, donc il était d'accord qu'on avait, on pouvait pas, c'est ce qui était dit donc aussi plus précédemment, qu'on ne pouvait pas se cacher de nous-mêmes et donc qu'on utilise forcément des choses qui nous touchent. Et la raison pour laquelle Percival, lui, écrit des ouvrages de fiction, c'est qu'il précisait qu'il était mentalement déficient, donc il ne pouvait pas faire autre chose.
Et pourtant, vous faites partie des très rares pays, il doit peut-être y en avoir d'autres, mais enfin, j'en vois pas comme ça sans réfléchir, qui soient aujourd'hui dirigés par un écrivain, et un véritable écrivain, Barack Obama. Je voudrais savoir si ça change quoi que ce soit.
Your president is a writer. Is anything... Is it different to have a writer which is president? Or...
Oh, it's wonderful because I love him. It's wonderful to have a president who can think and who can speak in full sentences that are, you know, exact. I don't always agree with the way he's handling things, but he's, you know, he took over a terrible mess, and he's in a democracy, which, as we all know, is very slow and confusing, and it takes time, and he has an enormous established political force against him that is very mobilized and usually very ignorant and not willing to listen. But he's the best we've had in a while, and I love him.
Donc on était d'accord, on était sur ces rares pays qui sont dirigés par un écrivain. Donc Richard nous fait savoir que pour lui, c'était effectivement, c'était fantastique d'avoir un président qui sache lire, qui sache penser. Alors il n'était pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il faisait, mais en fait, il a bien précisé qu'il a récupéré un pays qui était en état donc, de messe, enfin de désastre. Et qu'en face de lui, il avait une force politique importante, mais qu'il était confronté à des ignorants, et que Obama était certainement le meilleur président que les États-Unis aient jamais eu.
Is it different just to have a president which is a writer, which is a reader too?
Well, it's more important that he's a reader. It's a bit incorrect to call him a writer. He's a politician who wrote some books, and they were meant to generate a political career. So he's not a writer, but he is a reader and he's a thinker, and that's what makes him so different on the American political landscape, is that he's thoughtful, and though I seldom agree with him, it's wonderful to not be embarrassed when you go out into the world.
Can I add to Bill Clinton was a reader. I had the pleasure and the honor of meeting him in 1996, and I was introduced. This is Richard Bausch, novelist from Virginia, and he thrust his hand out and said, "Take me back," which is the title of my second novel. And I didn't say it, but I thought, "You have my vote for the rest of my life."
Alors, Percival disait qu'effectivement c'était un politicien qui écrivait des livres, donc ce n'était pas un écrivain en tant que tel, mais c'était un lecteur. Et donc lui, il approuvait donc ce président, et il était ravi de ne pas avoir honte lorsqu'il partait à l'étranger, donc de ne pas avoir honte de la politique de son pays. Et ensuite Richard parlait de Bill Clinton, qui était un reader or writer, you say about Bill Clinton?
Reader.
Et donc il l'avait rencontré en 96 et qui avait donné naissance à son deuxième livre, Take Me Back, Reprends-moi. Je ne sais pas comment il a été traduit en français.
Je
ne
sais plus.
Take Me Back, what was the French translation?
Je ne sais pas s'il a été traduit en français.
Is it translated in French?
Translated in French? Non, apparemment pas traduit en français.
Et du coup, il a eu son vote.
Et donc, oui, il avait donné entièrement tout son vote et toute sa confiance.
Comme quoi. Huitième commandement, puisque nous en sommes éloignés quelque peu, ne pense pas, rêve.
Don't think, dream. The Hague's commandment. don't think, dream.
Oh, that has
I'm not sure I agree with that. You don't have to think about.
No,
no,
no. It has to. That has to do with the whole politics thing too. Don't think, dream. If you're thinking too much with the characters, you can smother them. You have to dream it up first. There is thinking involved, a lot of it, of course, but not while you're dreaming it up. That the first, for me anyway, the first way through is dreaming it up. It's like a marvelously satisfying form of waking daydream.
Donc le huitième commandement, c'était ne pense pas rêve. Et il expliquait que ça avait certainement quelque chose à faire avec donc, le monde qui l'intéresse, le monde de la politique. Et il pensait que si on pensait trop, on avait des chances de rater beaucoup de choses. Mais qu'il fallait, ce qu'il fallait, c'est y penser que la meilleure façon, c'était donc de rêver et de faire, donc de rêver de jour, de penser, mais sous forme de rêve.
What do you think about that? Because
no, I certainly understand the way that way of working, and when I go to work on the novel, I have to abandon thinking. But for me, the initial phases are not the dreaming stages. Those are later for me. The initial work is, again, it sounds strange, but is a series of equations and shapes. And I start to see what I want to make in the novel, though I have no idea what it will be.
Alors, il comprend cette façon de travailler, mais pour lui, lorsqu'il commence à travailler sur un roman, il oublie de penser. Pour lui, la phase initiale, ce n'est pas le rêve. Hein, pour lui, c'est plutôt une série, donc il parlait d'équations et de formes. Et donc c'est à partir de là qu'il commence à voir là où il va aller. Mais en tout cas, il n'est pas dans la formulation du rêve.
Il est très bizarre.
You're very strange.
Neuvième commandement, ne te compare à personne, ce qui n'est pas contradictoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec la nécessité au préalable d'imiter. Je passe rapidement. Et dixième et dernier commandement, ça paraît aller de soi, mais demander à... Non, je vais pas citer de nom, ce serait indélicat. Mais demander à la moitié de la production romanesque française ce qu'elle en pense. Méfie-toi des idées générales et des généralités qu'elles engendrent, évidemment. Alors, il y a quand même un truc qui m'intrigue chez vous, qui êtes tous deux, et c'est vraiment votre ressemblance la plus importante, qui êtes tous deux des romanciers, entre autres, notamment Richard Bosch, parce que Richard Bosch est un nouvelliste et un nouvelliste de premier ordre également. Mais vous ne donnez pas dans ce que nous adorons, nous, en France, et dans ce qu'adore une certaine forme de littérature américaine qui peut être parfaitement aboutie, ce que vous appelez the big American novel, le grand roman américain, le roman qui se donne son pays, le destin de son pays comme sujet d'une certaine manière. Pardon pour la cuistrerie, semaine dernière j'avais rencontré au Festival America de Vincennes Bret Easton Ellis. Et je lui parlais de ça. Il me disait qu'à la fois, ça faisait les plus beaux romans, peut-être contemporains. Il me parlait du prochain roman de Jonathan Franzen, Freedom, et qui sortira en France en septembre prochain. Et en même temps, il me disait qu'il fallait en finir avec ce satané Big American Novel, qui, avec Proust d'un côté, Don DeLillo de l'autre, et le minimalisme, lui apparaissait être comme un, what he called a dead end, un cul-de-sac. Et vous, où en êtes-vous avec ce... Qu'est-ce que c'est que cette façon que les grands écrivains américains ont de vouloir écrire des romans mondes, des romans totaux? Et pourquoi n'en écrivez-vous pas, finalement? Car ce que vous écrivez me paraît assez différent de ça.
Alors, il y a un terme que vous avez employé que je n'ai pas compris. Hein. Les romans?
Des romans mondes, des romans de la totalité, de la globalité.
I was speaking about what you call big American novel, and I'm very surprised of since Don DeLillo and Philip Roth are nowadays Jonathan Franzen, and some of them are very very interesting, and some of them are very perhaps even great books. But the need of some American novelists to
take America like a subject and writing a big book, a book of totality of globality. What you don't do, what you don't do it, and what Richard don't really do it, in some different ways. Do you understand?
Yeah. No. Yeah. Well, I don't think meaning or important comes with heft or length. In a way, the huge American novels are the function of the absence of good editors, a number of the novels that you have in mind, I think are rather mediocre works that might have been very good works had they been cut in half. Density is far more important to me than length.
Donc pour en revenir donc à ces big American novels, donc ces romans américains très généralistes. Donc Percival pense qu'effectivement ça vient déjà de l'absence de bons éditeurs, et que les ouvrages auxquels il était fait référence sont plutôt des ouvrages médiocres, hein, qui auraient dû être coupés par moitié, et que pour lui c'est pas la longueur qui compte, mais plutôt la densité.
For me, great doesn't mean big, and I think Percival just said that. I've written a large novel called A Load of the Cannibals that I think is pretty good. I wouldn't call it the great American novel. In my mind, there's no such thing. But there is a candidate that's a little 185-page novel called The Great Gatsby that, to me, contains as much of so-called American spirit and American flaws as any other novel of much greater size. And the end of that novel, so we will run faster, reach out our arms farther, that somehow we're going to do it. We'll find some way to accomplish it. And the whole mention of an orgiastic future. There are things in The Great Gatsby that take that. My wife's in the front going, I love this direction. It's really cool.
Perhaps she applauses.
Thank you, Dave. So I don't like the term. I feel bad for Mr. Franzen. All he did was write a book. You can't really help what the critics do after you do it. I don't think he's ever really presented it that way himself.
Alors, le problème, c'est que vous faites référence à des ouvrages que je ne connais pas. Donc j'ai du mal. Il a fait référence à quel ouvrage?
Gatsby Magnifique.
D'accord. D'accord. Merci. Dans ce cas-là, vous continuez. Non, il expliquait que pour lui, bon ne veut pas dire nécessairement de la longueur, et donc il faisait référence à l'ouvrage auquel vous pensez. Après, effectivement, j'ai un peu perdu la... parce que je ne connaissais pas l'ouvrage.
Je pense que ça peut servir d'utile conclusion. Nous voilà tous heureux. Heureux, encore une fois, j'ai remercié la librairie Mola. Je voudrais remercier du fond du cœur l'association Lettres du Monde pour la qualité de leur programme en général et singulièrement de ce mois d'action autour de la littérature américaine qui commence, qui a été inauguré hier soir et qui va se dérouler jusqu'au début du mois de novembre avec un certain nombre d'invités, parmi lesquels nos deux invités, bien entendu, et beaucoup, beaucoup d'autres, et des gens tout à fait passionnants comme Richard Lange, Benjamin Percy, Jérôme Charry, Eddie Harris, et pardon à ceux que j'oublie, bien entendu. Un petit mot quand même. Il n'y a pas de littérature américaine en France sans, c'est un truisme, sans traduction. Puisque vous avez pu le noter, on ne maîtrise pas totalement la langue de Shakespeare. Nos deux écrivains de ce soir, qui, vous l'aurez compris, m'apparaissent être deux écrivains essentiels, bénéficient des services d'excellents traducteurs. Il n'est pas nécessaire de parler parfaitement une langue pour se rendre compte quand un livre est bien ou mal traduit, et que ce soit Anne-Nortissu, je regarde parce que je ne me souvenais plus de son nom, ou le couple Jamila et Serge Chauvin, qui sont des traducteurs extrêmement importants, les deux contribuent grandement à la qualité, en français bien sûr, des livres de Percival Everett et Richard Bosch, qu'ils en soient également remerciés. Et enfin, dernier remerciement qui n'est pas le plus désagréable, je voudrais remercier notre traductrice qui, dans des conditions difficiles, s'est acquittée tout à fait brillamment de sa tâche. Merci Patricia. Merci mesdames et messieurs.